ay, ay, ay. Salut tout le monde, bienvenue sur RDWA, vous êtes en direct à la recherche du groove perdu, émission 81 consacrée à l'influence de la diaspora caribéenne, notamment jamaïcaine, sur la musique en Angleterre. Un vaste sujet, beaucoup de choses à dire et ça va nous emmener dans les coulisses de l'histoire britannique d'après-guerre. L'histoire de la musique anglaise depuis la culture des mods du début des années 50 jusqu'à la jungle et au dubstep en passant par le punk est intimement mêlée à celle des différentes immigrations africaines et caribéennes qui débarquèrent en Angleterre après la Seconde Guerre mondiale. Elles arrivaient encouragées par le gouvernement britannique qui voyait un moyen de combler le manque de main-d'œuvre qui sévissait à cette époque. Le premier contingent d'immigrés débarqua à Tilbury le 21 juin 1948. Il avait embarqué de Kingston en Jamaïque sur l'Empire Windrush et parmi les 492 passagers très exactement se trouvaient de nombreux musiciens qui emmenaient avec eux les musiques antillaises dont le calypso originaire des Caraïbes, de Trinidad, des Barbades, des Antilles, etc. etc. À cette époque, encore territoire britannique, ces citoyens du Commonwealth allaient rapidement se retrouver confrontés à l'intolérance et au racisme d'une partie de la population anglaise. Le racisme ordinaire freinera longtemps toute possibilité d'ascension sociale pour la diaspora noire, lui rendant difficile l'accès au logement et à l'emploi. Beaucoup d'immigrés choisiront néanmoins de rester plus longtemps que les autres années prévues à l'origine, voire même de s'installer définitivement. Intitulé d'après un morceau composé par Lord Kitchener, un de ses passagers de l'Empire Windrush, London is the place for me est une très belle série de 4 disques parus sur le label londonien Honest Jones qui explore les musiques des diverses communautés black de Londres et documente l'histoire et l'héritage culturel de la diaspora noire de Grande-Bretagne. Les 4 volumes de cette anthologie retracent l'histoire d'une musique afro-caribéenne d'avant le reggae, ou en tout cas avant que le reggae ne détrône les autres formes de musique caraïbe et ne devienne la musique de choix pour toutes les communautés black britanniques, quelles que soient leurs origines. La musique, une fois de plus, deviendra un lien entre les différentes populations immigrées, véhiculant les nouvelles, mais aussi les espoirs, les espérances, ainsi que les déceptions des nouveaux londoniens. London is the place for me parle d'une époque où la musique noire, à l'exception de la soul, était exclusivement écoutée par la communauté africaine et antillaise du pays. Il faudra encore attendre quelques années avant que ne débute la grande histoire d'amour de la population blanche britannique pour le ska et le reggae, ou que ne pointe le début d'un intérêt pour la musique du monde. La musique de ces anthologies était donc à l'époque largement destinée à une consommation en circuit fermé, les populations se mélangeant assez peu à cette époque. Quelques tentatives de changer cet état de fait et de décanser les relations tendues entre la population blanche et les populations black, notamment après les Notting Hill Riots de 1958, une série d'attaques racistes sur la population noire du quartier, débuteront plus tard dans les années 60, avec entre autres en janvier 1965 la tenue du premier carnaval de Notting Hill, célébration festive de la diversité culturelle de Londres et reconnaissance de l'importance de l'apport antillais dans la culture anglaise. Le premier volume de l'anthologie se concentre sur le calypso trinidadien enregistré à Londres dans les années 50 avec de grandes figures comme Lord Kitchener qui se taille la part du lion dans ce disque avec 5-6 titres il me semble. On trouve aussi Lord Beginner, Mighty Terror ou encore Young Tiger. On va commencer l'histoire du jour par là, c'est-à-dire le début de la musique caribéenne à Londres. Nous sommes au début des années 50.
Thank you. London is the place for me. London, this lovely city. You can go to France or America, India, Asia or Australia, but you must come back to London City. Well, believe me, I am speaking broad-mindedly. I am glad to know my mother country. I've been traveling to countries years ago, but this the place I wanted to know. London, that's the place for me. To live in London, you are really comfortable, because the English people are very much sociable. They take you here and they take you there, and they make you feel like a millionaire. So London, that's the place for me. At night, when you have nothing to do, you can take a walk down Shaftesbury Avenue. There you will laugh and talk and enjoy the breeze and admire the beautiful scenery of London. That's the place for me. Yes, I cannot complain of the time I have spent. I mean, my life in London is really magnificent. I have every comfort and every sport, and my resident is at Hampton Court. So London, that's the place for me.
Because I adore that festival. The terror is really missing the carnival. Because I really love that festival. I can't hear no beating of steel band. I can't see no clung, no wild Indian. Yes, I just cry when the time comes. No mask here in Great Britain. Study mass in Trinidad. My head was hot, me just like a going mad. I can't buy me rum here in Britain, because it's more expensive than diamond. I can't see pretender nor spoiler, and jump in a band to consume the bad liquor. Yes, I just cry when the time comes. No mass here in Great Britain.
Titre enregistré alors que le carnaval de Notting Hill n'était pas encore présent. Le morceau s'appelle No Carnival in Britain. C'est le Mighty Terror. Hors des frontières de la Jamaïque, grâce à sa forte communauté jamaïcaine, c'est au Royaume-Uni que s'exporte le mieux le ska ou le rocksteady. Vers 1960, la population immigrée se retrouve en particulier dans le sud-est de Londres, dans les quartiers comme Brixton. La pauvreté des nouveaux arrivés va créer une société parallèle avec sa contre-culture. Le film culte The Harder They Come, avec de la BO enregistrée notamment par Jimmy Cliff, donne un coup de pouce déterminant pour la propagation du reggae, propulsant du même coup ses représentants au-delà des frontières de le pays d'origine. Le public découvre des musiciens comme Jimmy Cliff, Desmond Dekker, The Abyssinians et Marley, bien sûr. Le tube Israelites de Desmond Dekker est un des tout premiers titres rocksteady jamaïcains à faire un tabac en Angleterre. On est en avril 1969 et ce titre est la plus grosse vente du mois et un des tubes de l'année. Desmond Dekker avec Israelites.
Get up in the morning slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Call me Israelite, sir. Get up in the morning slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed.
La magnifique chorégraphie de Desmond Dekker sur ce morceau joué lors d'un concert à Londres sur un documentaire fait par la BBC et que je mettrai en lien sur le site. Autre titre qui marche très bien aussi cette année-là, le Wet Dreams de Max Romeo qui se vend très bien malgré sa censure, ou encore ce titre des Upsetters, un instrumental, Return of Django.
We'll be right back.
partir de ces années-là, la fin des années 60, le reggae commence à bien se vendre en Angleterre, d'une part dans la communauté jamaïcaine qui augmente considérablement lors de l'indépendance de l'île, d'autre part grâce à un nouveau mouvement prolétaire, celui des skinheads apparus dans les quartiers difficiles de Londres. Les premiers skinheads apparaissent en Angleterre en 1969. Ils naissent de la rencontre entre les Rude Boys et les Mods, abréviation de Modernist, des petits blancs attirés par les musiques et la culture black. Ces Rude Boys, alors immigrés en Angleterre, leur font découvrir le ska, le rocksteady et le reggae, qui deviennent rapidement les musiques du mouvement. Ce sont les skinheads qui vont réellement propager le reggae en Angleterre, notamment grâce aux productions du label Trojan, dont le sigle représente un casque de guerrier troyen. Les skinheads, associés aujourd'hui malheureusement davantage aux nazis en bombers et aux crânes rasés, étaient donc bien à la base un mouvement proche de la communauté black. Ce n'est que plus tard, vers 1977, qu'un amalgame sera fait par la presse entre néo-nazis et skinheads suite à plusieurs faits divers et notamment des bastons entre communautés. Depuis, cette image nauséabonde ne les a plus quittés, alors qu'une grande partie du mouvement est antifasciste et antiraciste. Le 30 août 1976 a lieu le célèbre carnaval de Notting Hill, dont j'ai déjà parlé plus près dans l'émission. Ce carnaval qui se tient dans la capitale anglaise, mais cette année-là, 1976, le cœur n'y est pas et la fête tourne à l'émeute. En fin d'après-midi, une confrontation va opposer les forces de police à de jeunes issus des communautés jamaïcaines et africaines. Coincés en sandwich entre les policiers et les rastas, trois potes musiciens blancs, Bernie, Joe et Paul, entraînés par les mouvements de foule et galvanisés par la violence des combats, ils lancent allègrement des projectiles sur les autorités tout en se défendant contre les rastas qui tentent de les dévaliser. Ces trois jeunes deviendront connus plus tard sous le nom de The Clash. Les Clash ont bien conscience que les événements de Notting Hill sont un avant-goût de ce qui touchera bientôt toute la Grande-Bretagne. Tenu pour responsable de la récession économique et de l'augmentation du chômage, les émigrés, comme partout, sont les boucs émissaires d'une extrême droite qui s'enfle chaque jour de nouveaux adeptes. Dans la pagaille consécutive à l'émeute, le pays tout entier semble être assis sur une bombe. Le reggae devient alors le compagnon de ces révoltes et de leurs protagonistes. Son rythme s'alourdit davantage et se fait plus lent. Il se fait plus menaçant comme un poing brandi à la face du pouvoir par la jeunesse jamaïcaine. Un nouveau style de reggae était né, le Rockers. La Jamaïque, elle, est au bord de la guerre civile et décrète l'état d'urgence. Le groupe Culture, groupe de reggae adulé par les punks de l'époque, sort tout Seven Clash en 1977, chanson dont les paroles évoquent les prophéties de Marcus Garvey. Cette année 77 est celle de la rencontre et de la fusion entre reggae et punk, et ce titre de Culture en est le symbole. On se l'écoute pour le plaisir et pour l'histoire. Culture. Cette année-là, 1977, Lee Scratch Perry et surtout Bob Marley visitent l'Angleterre et rencontrent The Clash grâce au DJ et réalisateur un peu plus tard Don Letts. Il passe une soirée dans le club de Letts, The Roxy, et prend une claque en découvrant le mouvement punk, pourtant a priori bien loin du reggae, de la bouffe High Tolls et du Rastafarisme. Et pourtant, c'est ce qui a conduit Bob à l'enregistrement de Punky Reggae Party avec Lee Scratch Perry à la console. Don Letts, voilà un personnage central du rapprochement entre les cultures reggae et punk dans son club de Brixton. Entre deux séries de sons punk, il faisait tourner ses pistes de reggae et de dub. Et bien que piètre chanteur et musicien, il a eu une influence énorme sur la scène punk et son évolution à la fin des années 70. Les Clash, de leur côté, retravaillent ce message pour l'adapter à leur environnement. À travers le reggae et sa culture, ils voient une évolution logique de leur musique et du mouvement punk. Au-delà du rythme, le groove pense que le discours du reggae peut offrir une réelle alternative à celle de l'extrême droite. Les Clash approchent de près le reggae en tentant une interprétation punk du Dancing Shoes de Bob Marley, puis de Police and Thieves de Junior Mervyn, produit et co-écrit une nouvelle fois par le génie Lee Scratch Perry en 76. Chanson qui avait été un des tubes les plus populaires de l'année précédente. L'explosion du punk coïncide avec l'avènement du reggae. Pour couronner l'année 77, les Clash décident de partir écrire leur prochain album en Jamaïque. Leurs premiers sons punk reggae sont plus punk que reggae. Mais dès le second album et encore davantage sur le troisième, London Calling, l'alchimie est bien meilleure et vraiment innovante. On va s'écouter deux titres de cet album de 1979, The Guns of Brixton. Et ensuite, ce sera Revolution Rock The Clash. L'année de sortie de l'album London Calling des Clash 1979, c'est aussi l'arrivée au pouvoir de la Dame de Fer, Margaret Thatcher. Aussitôt au pouvoir, elle tente de mettre son programme ultra-libéral en pratique et de tout faire en même temps, réduction des dépenses publiques, diminution de l'impôt sur le revenu, suppression de l'encadrement des salaires et des prix, hausse des taux d'intérêt pour comprimer la masse monétaire. Dès octobre 1979, elle entreprend une libéralisation quasi totale des activités bancaires et financières pour redonner du tonus à la place de Londres. Sur le front social, dès 1980, elle engage une politique visant à affaiblir les trade unions, les syndicats britanniques. Alors fort de 14 millions d'adhérents, soit 54% de la population active, limitation du monopole syndical de l'embauche et de la possibilité d'organiser des grèves de solidarité, puis loi réprimant des grèves sauvages en 1982, Le bilan de ce premier gouvernement Thatcher sera catastrophique. La conjonction du ralentissement économique mondial suite au deuxième choc pétrolier et de la politique déflationniste fait reculer la production de 10% entre 80 et 81. Entre mai 1979 et mai 83, le taux de chômage passe de 5 à 11%. Les mesures fiscales combinées à la baisse de l'activité, aux frais d'indemnisation du chômage, aux investissements réalisés dans le secteur public avant sa privatisation contribuent à accroître le déficit public, limité en partie par les recettes tirées du pétrole de la mer du Nord. Et ça durera comme ça jusqu'en 90 avec d'énormes dégâts sociaux. Ce contexte économique et social anglais du début des années 80 est important pour recadrer la musique de cette émission dans son contexte. Cette Angleterre malade, cette Angleterre industrielle en crise, la montée du chômage, la société de plus en plus individualiste, violente. Voilà ce qui est décrit dans la chanson Ghost Town des Specials. Une véritable photo de l'Angleterre du début des années 80 avec en toile de fond les émeutes ayant éclaté dans les villes de banlieue en 1980 et 81 en mélangeant le ska, la new wave et un phrasé rap pour énoncer ces paroles racontant la crise de Specials tape dans le mille et ce morceau est intéressant en partie pour ça car il est très ancré dans son époque. Le morceau lui-même a un peu vieilli sur certains passages, on ne peut pas le nier, mais il est ingénieux avec différentes parties qui évitent un peu les longueurs. Il représente le sommet de la carrière des Specials, sommet dont ils ne se remettront pas puisque le groupe se séparera peu de temps après ce titre. Leur premier album, Specials de 1979, reste une valeur sûre du ska anglais. Ce qui sera moins le cas pour l'album suivant, More Specials en 80. Quant à Ghost Town, qui n'apparaîtra sur aucun album, si ce n'est sur des compilations ou des BO de films, comme celle de Snatch, il fut en tête des charts durant l'été 1981. Avant ce fameux titre dont j'ai parlé plus haut, Ghost Town, on s'écoute un autre de leurs tubes de l'année 79. Une reprise d'un standard jamaïcain, A Message to You, Rudy the Specials. The organs are always playing and the parsons are saying they cooperate and amalgamate. We'll be right back. Le groupe phare de la scène roots anglaise à la fin des années 70 et sans contexte, Steel Pulse, il débute en 75 à Birmingham autour du noyau dur, David Hines au chant, à la guitare, Basil Gabaldon et Ronald McQueen à la basse. Le nom du groupe provient de la réputation de Birmingham en tant que capitale britannique de l'acier. Les débuts du groupe sont difficiles, les circuits caribéens et reggae anglais restant au départ fermés au groupe en raison de leur foi, alors largement mal considérée. Steel Pulse se joint en 1976 au mouvement Rock Against Racism, où il côtoie The Clash, The Police ou The Stranglers. C'est d'ailleurs en tournant avec des groupes punk que Steel Pulse commencera à se faire une réputation. C'est en jouant également avec Burning Spear que Steel Pulse entre en contact avec le label Island de Chris Blackwell. Le groupe est rapidement signé et sort le 45 tours Ku Klux Klan en prélude à l'album Answorth's Revolution, Answorth comme leur quartier à Birmingham. Cet album sort en 78. Il participe alors grandement à la vague reggae et punky reggae anglais avec Aswad, The Police, UB40 et bien d'autres. Tribute to the Martyr sort en 79, leur deuxième album, un album beaucoup plus engagé politiquement et ancré dans les luttes noires internationales. La pochette en est la preuve. On peut voir les grandes figures militantes comme Marcus Garvey, Malcolm X, Martin Luther King, George Jackson, Steve Biko. À partir de 84, du noyau dur de départ, seul David Hines restera et leurs productions seront globalement moins bonnes, moins inspirées. On va se faire un petit tour d'horizon de leur discographie avec 4 morceaux. Leur premier tube, Ku Klux Klan et Answorth's Revolution. Ensuite, il y aura un morceau de leur deuxième album, Biko's Kindly Lament, et enfin Chain Up Psalm, Steel Pulse sur RDWA.
Minding my own business. I come face to face with Yeah.
C'était Steel Pulse avec le morceau Chant a Psalm. On finit cette première émission avec l'un des groupes les plus samplés au monde, les Londoniens de Symand. La marque de fabrique de ce groupe, c'est d'avoir distillé dans leur funk ce qu'ils appelaient le Naya Rock, une rythmique venue des tambours Naya Wingi, le rythme des Rastas de Jamaïque, un clin d'œil à leurs origines caribéennes que les membres du groupe brandissaient comme un étendard. Tous les musiciens de Symand sont originaires des Caraïbes, de Guyana et principalement de Jamaïque, d'où leur présence dans l'émission du jour. Formés à Londres en 1971, ces 9 musiciens ont splitté au bout de 3 ans seulement, avec 3 albums au compteur. Tout au long de ces 3 enregistrements, les membres de Symand font preuve d'un éclectisme et d'une maturité musicale à toute épreuve. Ils maîtrisent jazz, funk, Naya Wingi, soul, rock, calypso. C'est un peu par hasard qu'a été découvert ce groupe dans un club du soul londonien au début des années 70. Le producteur John Schroeder, qui travaille pour la vénérable maison Chess Records, est à la recherche d'une nouvelle signature rock pour son label, mais le groupe qui devait jouer annule et est remplacé au pied levé par cette formation d'origine caribéenne. Schroeder signe Symand un an plus tard sur Janus Records, une division de Chess Records, et le groove du single The Message rejoint directement la 20e position des charts US. Symand se rendra ensuite à New York avec le succès du premier album et tourna aux États-Unis avec Al Green. Ils ont également partagé quelques scènes avec Mandrill. Voilà, pas grand chose d'autre à se mettre sous la dent pour la biographie de ce groupe culte. On s'écoute quelques titres aux saveurs caribéennes pour conclure l'émission avec un extrait de leur premier album, Zion High. 2 extraits de leur Second Time Round de 1973 et un morceau de leur dernier album, Promise High de 74, Pon the Jungle, le groupe Symand.
Shall live as one till time. Are we still in sin as that man Cain? Will you stand and watch I man slain? Who will show the way that I man came? Who will go the way that I man say?
We shall go down, we shall be found. We shall go down, we shall be found. We shall go down, we shall be found. We shall go down, we shall be found.
Look towards the sun for I, and in our hearts we knew in time that the warmth with which the sun showed came, we would show feeling our hearts again for that man who once caused us pain. For the truth is love, as I man say.
We shall go down, we shall be found. We shall go down, we shall be found. We shall go down, we shall be found. We shall go down, we shall be found.
Oh, yeah,
Voilà pour cette première émission, Rudy London is the place for you. Vous pourrez la réécouter jeudi à 10h sur les ondes de RDWA ou la podcaster comme d'hab. La semaine prochaine, on continue mais avec des sons exclusivement reggae made in England, avec entre autres UB40, Aswad, Black Roots, Delroy, Washington, etc. etc. Vous savez tout, bonne soirée et à très bientôt. Ciao, c'était à la recherche du groove perdu. Ciao.